sure about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Anna Sigalevitch et Philippe Chevillé se font face changement de programme par rapport à celui que j'ai annoncé vendredi soir, puisque l'interprète principal du spectacle Nous sommes repus mais pas repentis, d'après Thomas Bernard, mis en scène par Séverine Chavrier, s'est blessé au cours des répétitions. La première n'aura lieu que ce mercredi aux ateliers Berthier pour l'Odéon Théâtre de l'Europe. On en parlera donc lundi prochain. À notre affiche ce soir, comme prévu, Tristan et Isolde de Wagner, direction musicale Daniele Gatti, mise en scène Pierre Audi, c'est au Théâtre des Champs-Élysées. Et puis, programme nouveau, Verso Medea, spectacle écrit et mis en scène par Emma Dante, qui est en ce moment au Bouffe du Nord. On prendra aussi des nouvelles de l'occupation du Théâtre de la Bastille par Thiago Rodriguez, plus rapidement au milieu de l'émission. Je passerai en fin d'émission un coup de fil à la comédienne Elise Abonse-Muronen pour parler du spectacle Mad in Finland, présenté à la scène nationale de Châteauroux. Vers 21h20, Émilie Chaudet vous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Cadeau à gagner ce soir, des DVD du documentaire Après Hitler d'Olivier Vivorca et David Korn-Brossa, distribué par Zelle. Enfin, nous avons rendez-vous avec le musicien et compositeur Machar Bar-Ralife, qui est toute cette semaine l'invité de la dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec l'un des plus célèbres opéras de Richard Wagner, Tristan et Isolde, présenté jusqu'au 24 mai au Théâtre des Champs-Élysées à Paris sous la direction de Daniele Gatti, mise en scène Pierre Audi. Alors, impossible bien sûr d'oublier la mise en scène de Peter Sellars avec des vidéos de Bill Viola, présentées plusieurs fois à l'Opéra de Paris, qui reste une référence scénique majeure de cet ouvrage, mais il est bon que les grandes œuvres soient régulièrement montées. On a donc eu envie d'y aller voir. Cette action en trois actes, comme l'appelle son auteur, est la mise en musique d'un poème que Wagner avait lui-même écrit, d'après la légende celtique de Tristan et Iseult, qui date sans doute du XIIe siècle et qui raconte la passion évidemment contrariée d'une femme et d'un homme que tout devrait opposer. Ce court extrait fourni par le Théâtre des Champs-Élysées de cette nouvelle production, Anna Sigalevitch.
Alors ce Tristan, oui, qui est en effet vraiment un monument dans le répertoire de l'opéra, qui pour moi, c'est un des 5 chefs-d'œuvre.
Alors, quels sont les 4 autres?
Les gamins, je ne sais pas si ça intéresse les auditeurs, je peux le dire, oui, avec peut-être Don Giovanni, Pélias et Mélisandre, Carmen, peut-être aussi quand même, peut-être, oui, Boris Godounov de Moussorski. Bon, enfin, en tout cas, voilà, ça fait partie vraiment des très, très, très grandes. Des très, très, très grandes œuvres.
Vous n'avez pas mis l'italien, j'ai remarqué.
Ouais, Traviata, c'est... allez.
Bon.
Mais et aussi, je trouve que c'est une des œuvres de Wagner les plus accessibles, parce que quand on écoute Tristan dès le prélude, ça vous prend et ça vous lâche pas du tout. L'histoire est assez simple, il y a peu de personnages, il y a aucune opacité comme on peut ressentir si on n'est pas forcément fin connaisseur dans le
ring. Alors si on est dans là, on effectivement, on
voilà,
peut se perdre.
Voilà, c'est plus difficile d'accès, c'est plus opaque, et c'est vrai que Tristan, on peut l'écouter comme ça, paf, de façon immédiate, dès le prélude on est pris. C'est aussi un opéra qui est important dans l'histoire de l'opéra, dans sa forme, parce que c'est cet accord de Tristan et le chromatisme qu'il y a, c'est vraiment entre la tonalité, LA plus loin tonalité, et la tonalité, l'apostrophe A tonalité, on ne sait pas exactement où on est, il y a des chromatismes tout le temps, etc. Et ça a beaucoup inspiré et influencé la musique moderne de Schoenberg, etc. Donc c'est un opéra qui est important.
Et la musique de cinéma, beaucoup aussi. Je ne parle pas seulement des emplois. Je ne parle pas des emplois. Bon, Mélancolia, le prélude de Tristan, mais Bernard Herrmann, John Williams et tant d'autres ont puisé à cette source-là, plus particulièrement vraiment de Tristan.
C'est vrai, Bruckner, Mahler et Wagner sont les grands...
Les provoyeurs et inspirateurs des musiques de cinéma classiques, on va dire.
Absolument. D'ailleurs, on se demandait, mais Castellucci l'a utilisé aussi dans son Oresti, qui faisait revenir en boucle le prélude de l'acte 3, récemment aux Têtes de l'Odéon. Bon, une fois qu'on a dit ça...
On parle de ce qu'on voit et on entend au TCE.
De ce qu'on voit et on entend. Moi, j'ai pris du plaisir vraiment à assister à cette production, et notamment grâce à la direction de Daniel Legati.
Avec l'Orchestre
National de France, qui quitte, puisqu'il va diriger le concert de Gabaud de...
Amsterdam.
Et je trouve que le travail qu'il fait avec l'Orchestre National de France est assez admirable. Dès le départ, ce prélude, il entre en matière tout en délicatesse. C'est vraiment une entrée qui est extrêmement subtile, qui est dans la transparence, qui est fine, qui est délicate et qui en même temps bouge beaucoup. C'est ce qui m'a plu. Je trouve qu'il crée énormément de mouvement au sein de l'œuvre. Il y a dans Tristan un très grand duo d'amour à l'acte 2 qui dure 45 minutes. C'est le duo le plus long de l'histoire de l'opéra. Et donc ce duo, je trouve qu'il arrive à créer des inflexions qui sont magnifiques. Les tempi deviennent par moments haletants, puis après ça...
Il y a beaucoup de nuances dans cette direction.
Beaucoup de nuances, et ça n'explose jamais. Alors ça, on peut être pour ou contre, ça c'est la question de l'acte 3.
Ça m'a manqué,
ça,
oui.
Je peux l'entendre, mais en tout cas, si on... En étant attentif, c'est vraiment, je trouve, une sorte de matière extrêmement mobile, transparente, pleine d'élan en même temps, et très attentive au texte.
Ouais, beaucoup de subtilité dans ce travail.
Oui, et au texte. Au texte. Vraiment, on entend très bien les chanteurs, ils n'ont jamais à forcer, et il y a une réelle dramaturgie qui est créée par la direction de Daniel Legati. Donc, pour un premier retour, j'ai été très, très séduite et convaincue et touchée par cette direction.
Philippe Chevillier.
Moi aussi, c'est une belle production. Je pensais à la modernité dont parlait tout à l'heure Anna, et étant pris par l'œuvre, je me disais qu'au fond, ce passage du romantisme à la modernité, ça allait même plus loin. C'est-à-dire que dans cette histoire d'amour de la mort, de la mort de l'amour, etc., et cette espèce de flux, de cette perte de notion de temps, on se projetait aussi vers le rock progressif, vers la techno, vers des choses. Je trouvais qu'il y avait une filiation qui pouvait être comme ça infinie. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'entendre, et moi j'étais content aussi de cette version, Legati dit chambriste, disons que c'est vrai que ça n'explose pas, mais j'ai trouvé justement qu'il y avait un bel équilibre, qu'on pouvait entendre un bon rapport entre les voix et la fosse, qu'il y avait une légèreté, qu'on était pris petit à petit par cette histoire, il y a quelque chose d'assez hypnotique, et que justement le fait que ça ne crie pas, que ça ne tonitrue pas au niveau des, je sais pas si on peut dire ça, mais que ça ne fasse pas trop de vacarme au niveau de l'orchestre, ça laisse donc cette impression, voilà, de temps qui se dilue. Et après, bon, alors on parlera peut-être de la mise en scène après, mais c'est vrai que les chanteurs aussi, il y a une distribution qui est quand même vraiment de très grande qualité. Et j'étais notamment moi impressionné par la Rachel Nichols, hein, qui a remplacé Isolde, enfin qui a remplacé la
chanteuse prévue trois semaines, je crois, de la première. C'est quand même pas rien. Bon, elle connaît son rôle, il n'y a pas de doute.
Il n'y a pas de doute. C'est une Wagnerienne.
C'est vrai que c'est un beau plateau vocal qui pourrait très bien figurer sur la scène de l'Opéra de Paris. Enfin, c'est vraiment un très beau plateau.
Toastern Kell qui chante là, Tristan chanté dans la tétralogie de cette épouvantable tétralogie de Gunther Kramer il y a quelques années à l'opéra,
mise en scène par Gunther Kramer,
magnifiquement dirigé par Jordan. Mais je me souviens de ce pauvre Toastern Kell. Vous vous souvenez, dans Siegfried, il était affublé d'une espèce de salopette avec des dreadlocks dans un champ cannabis. Ou catcheur, moi j'ai l'impression que ça faisait, vous voyez, c'était hallucinant.
C'était horrible, et Siegfried, pourtant, c'était un sommet de la tétralogie, mais bon. Donc oui, le reste du plateau vocal, quand même, est de très bonne qualité.
De très bonne qualité. Donc effectivement, cette chanteuse que je ne connaissais pas, Rachel Nichols, qui est anglaise, très belle Isolde, parce que Isolde, en plus, intéressante, je trouve. C'est pas une voix, comment dire, wagnérienne évidente dans le sens où
c'est un peu serré dans les aigus, un peu.
Elle fait pas wouhouhouhou, elle articule beaucoup.
Oui.
On entend les consonnes, on entend les arêtes. C'est assez à l'os, en fait, comme façon de chanter. Mais en même temps, il y a quelque chose de déchiré, de touchant. Sa transfiguration à la fin est très 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 belle. Je trouve le duo avec Brangen aussi est assez magnifique, le duo avec Tristan aussi. Enfin non, c'est une très belle incarnation d'Isolde. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le roi Marc, magnifique. Un timbre d'une clarté, d'une chaleur, d'une humanité. Il dégage quelque chose sur scène que j'ai trouvé absolument remarquable. Toastern Kell, vocalement, c'est très beau. Après, moi, je peux pas dire que je sois totalement séduite par c'est un peu un wagnérien à l'ancienne, dans le sens où il assure, il est hyper vaillant, c'est remarquable objectivement. Après, est-ce que c'est d'une subtilité, bourrée de nuances et de pour le coup d'introspection, ça je l'ai un peu moins ressenti, parce que c'est ça qui est difficile aussi dans le rôle de Tristan, c'est que c'est pas que un ténor vaillant, c'est un ténor qui est vaillant certes, mais qui est aussi qui doit aussi chanter pianissimo avec toute cette subtilité qu'il y a dans l'écriture de l'acte 2 notamment.
Philippe Chevillier,
moi je suis d'accord, c'est ce que j'allais dire, j'ai trouvé que c'était impeccable. En plus, à la fin de l'opéra, on se dit pas, on n'a pas une petite souffrance en se disant vraiment, il tient absolument vaillamment le rôle, il a une très belle voix, mais j'ai trouvé qu'elle était un petit peu quand même derrière, que ça manque un peu d'émotion, que ça m'a beaucoup moins touché, par exemple, que le roi Marc, ou que Brett Poligato, que j'ai trouvé très bien aussi dans le rôle de l'écuyer.
Excellent.
Et formidable aussi dans sa façon de chanter, surtout du passage du début où il est un peu l'écuyer triomphant, et après dans le côté poignant dans le dernier acte, où j'ai trouvé très bien vraiment.
Parlons de mise en scène tout de même, Daniele Gatti, tiens, c'est Philippe Chevillier qui va poursuivre pour la peine.
Alors on va voir d'abord le bon côté des choses. C'est-à-dire que je pense que on pourrait se dire parfois, ce que disait Anna, dans un spectacle d'opéra, la mise en scène peut gâcher un spectacle. Là, c'est pas le cas. On a une mise en scène qui accompagne l'œuvre. Alors, c'est un parti pris qui est un parti pris extrêmement statique. Esthétiquement, c'est plutôt beau parce qu'on a de belles lumières, qu'il y a des trouvailles au niveau du décor, le décor du début, des grandes carcasses de bateaux qui ont un petit côté Richard Serra, qui chatoie avec les vidéos, l'espèce de forêt ou de squelette, on sait pas très bien, de baleine là qui est assez beau aussi, et puis les rochers à la fin, c'est bien éclairé. Simplement, moi, ce qu'imaginais, c'est qu'on a l'impression que la direction d'acteur, c'est pratiquement poser les gens à un endroit, et que moi, je veux bien qu'ils soient totalement figés par le filtre d'amour, mais c'est quand même pas un filtre de mort au départ, donc ils doivent quand même bouger un petit peu plus, se regarder plus, peut-être se toucher un peu plus, que vraiment, même s'ils sont dans l'ahurissement, dans l'étonnement de l'amour et dans le qui est quelque chose qui se passe entre eux. Or, on n'a pas vraiment l'impression plutôt que par moment qu'ils chantent côte à côte, et ça m'a vraiment manqué, ce cette direction d'acteur m'a paru assez faible. Ça fait un peu tableau vivant. Mmh. Voilà.
Je suis bien d'accord. Je rajouterai même une petite couche tout à l'heure. Mais Anna Segalevitch, votre sentiment sur la mise en scène de Daniel Legati?
Je serais un petit peu plus nuancée parce que je dois dire que j'ai été assez séduite par l'acte 1 et par l'acte 2. Bon, je dois reconnaître que nettement moins par l'acte 3. Voilà. Mais cette scénographie que vous évoquiez, Philippe, du bateau qui se rend comme ça vers le roi Marc, vers la Cornouaille, je la trouve réussie parce qu'il y a un mouvement qui est créé, il y a des espaces qui sont dessinés par ces grands panneaux coulissants que j'ai trouvé assez beaux. Ils sont sur roulettes.
En vrai coulissant, on imagine. Non, c'est pour donner des images, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment indépendants les uns des autres.
Voilà, indépendants. Ce sont de très très grands panneaux qui montent quasiment jusqu'au cintre, mm-hmm. dans des bois un peu sombres où apparaissent des couleurs un petit peu bleues et ocre.
Un peu rouille.
Par moment, oui, pour la rouille. Mais je trouve que ça évoque très bien. Quand on voit le duo Brangane Isolde, on a l'impression vraiment qu'elles sont sur la proue, on dit comme ça, dans bateau, oui, sur la proue du bateau. À l'acte 2, alors, c'est compliqué, ce grand duo d'amour, effectivement, on peut se dire, bon, c'est très statique, je suis d'accord, et c'est un peu formel. Mais en même temps, on peut dire que on ressent la solitude des personnages, parce que ils la vivent pas, cette histoire. Je veux dire, il n'y a pas de chair dans Tristan et Isolde. D'ailleurs, chez Sélar, si on n'avait pas non plus, mais c'était autre chose. Bon, ouais, c'était plus intérieur. Bon, je suis d'accord, mais
vous n'étiez pas bouleversé?
Si, j'étais terrassée.
Vous n'étiez pas en larmes d'un bout à l'autre, comme moi? Bon.
Si.
Voilà.
Mais j'ai été touchée, là aussi, par l'acte 2, par la façon dont ils s'attirent, et puis dès qu'ils se rapprochent un tout petit peu trop, paf, ils s'éjectent l'un l'autre, dont ils se cramponnent aux parois, à côté cour et à côté jardin, dont par moments, elle défaille, elle a une forme d'ivresse comme ça, elle est enivrée par l'amour, et elle s'écroule au sol. Je trouve qu'il y a quelques élans qui sont assez beaux, mais c'est un petit peu, je suis d'accord, un peu trop statique. Et l'apparition du roi Marc, pour le coup, elle, il y a quelque chose qui s'incarne, qui devient vivant, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire que lui, il incarne la vie, et eux, cette histoire d'amour impossible, où ils sont tous les deux d'ailleurs courbés, empêtrés, terrassés et immobiles, et c'est dans la mort qu'ils vont s'épanouir. Enfin, je trouve pas que ce soit un contresens par rapport à l'œuvre. En revanche, alors l'acte 3, j'ai pas du tout compris. Ça, je dois dire que... Parce que donc là, les costumes deviennent plutôt modernes. Ils changent de coiffure et ils sont en tenue plutôt militaire. Et il y a une sorte de loupiote qui est au fond. Alors moi je me dis, c'est bien la loupiote. En fait, c'est le bateau d'Isolde qui arrive peu à peu. Donc je m'attendais à ce que la loupiote se rapproche, etc. Bon, en fait, pas du tout. Et donc il y a des choses qui restent, je dois dire, assez mystérieuses pour moi dans cet acte 3. Où, jolies images, très belle lumière de Jean Calment.
Voilà, Jean Calment fait très belle lumière, magnifique. Mais le problème, c'est que voilà, pour moi, on peut pas s'appuyer que sur les lumières qui sont très belles. Vous évoquiez Richard Serra pour cet acte 1 avec ses panneaux sur roulette. Moi, j'avais l'impression d'être devant un stand d'auto-tamponneuse parce que ça n'arrête pas de bouger. En plus, ça fait du bruit. Enfin, ça parasite quand même pour moi beaucoup l'action. J'ai l'impression que c'était un gamin qui s'amusait avec son gadget, effectivement, à redessiner l'espace. Mais on peut le faire quelques fois dans un acte. On peut pas le faire quasiment tout le temps comme c'était là. Je pense que le hiératisme comme direction d'acteur, c'est quand même un peu court. Et puis on évoque Richard Serra, mais on peut aussi dire n'est pas Bob Wilson.
Bob Wilson, évidemment, on pense à Bob Wilson.
On est obligé de voir ces silhouettes découpées sur ces cyclos de fond de scène, très bien éclairés, certes. Jean Calment est un grand artiste des lumières, mais pour moi vraiment, le hiératisme, on va dire, ça ne suffit pas. Si on n'a pas la sensibilité d'un Bob Wilson pour son PLA, c'est Mélisande, par exemple, qu'on a revu la saison passée,
qui est avec la piqûre,
un éblouissement d'un bout à l'autre et une subtilité. On peut pas dire que ça bouge beaucoup dans tous les sens, hein, mais il y a une telle justesse.
C'est essentiel. Voilà. Chaque geste est essentiel.
Alors que là, c'est l'impression que j'ai eue, c'était que c'était une production formidable pour les séances photos, parce que je pense qu'on peut faire que des très belles photos à chaque instant de cette production, parce que voilà, ça rend très très bien. Mais pour moi, il manque vraiment du coup de l'émotion, et même si effectivement le directeur d'orchestre, je vous l'ai déjà dit, et le plateau vocal très beau, et je trouvais effectivement que Isolde arrivait à insuffler quand même des choses dans le peu d'espace de jeu, à mon avis, qu'on leur avait assigné, et qu'elle arrivait quand même à donner un tout petit peu d'émotion. Voilà, le roi Marc, il a cette force évidente, mais pour moi, c'est quand même vraiment pas assez. Ça parasite beaucoup. Donc, je recommanderais vivement d'écouter sur France Musique la diffusion le samedi 25 juin à 19h. Bon, celles et ceux qui pourront aller au TCE verront une production tout à fait honorable, belle, mais pour moi, avec pas un déficit d'émotion, je dirais.
Oui, mais c'est quand même une production qui, où la mise en scène permet à la musique de s'épanouir.
Je ne suis pas d'accord, mais bon, Philippe Chevillier...
Elle ne l'entrave pas, ça manque beaucoup de théâtre pour moi, ouais. mais en même temps, c'est vrai que pour des gens qui ont envie d'aller le voir, ils vont voir une belle production.
Voilà. Non, mais c'est très bien que le théâtre des Champs-Élysées fasse une belle production comme celle-ci.
Et c'est beau d'ailleurs, au théâtre des Champs-Élysées, ça sonne bien, enfin c'est vrai que c'est...
Donc je me suis posé cette question-là après, de me dire, bon, c'est vrai que ça ne m'a pas emballé la mise en scène, mais au fond, puisque j'ai aimé le spectacle, c'est que donc... Au-delà de la musique, il y a quelque chose.
J'ai mes quelques réserves, mais vraiment...
Alors, ce qui était très étonnant le soir de la première, c'est qu'il y a eu des huées et des bravos, et pour Daniel Leggetti et pour Pierre Audi. Et alors là, franchement, c'est très mystérieux pour moi, parce que je trouve que c'est ni l'un ni l'autre.
C'est une belle première, production, mais... Dans quelques maisons d'opéra que ce soit, il y a toujours des choses que nous ignorons. En tout cas, cette production de Tristan et Isolde est visible jusqu'au 24 mai au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et donc, je rappelle que France Musique diffusera cet opéra le samedi 25 juin. Juin à 19h.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure du spectacle d'Emma Dante et Verso Medea, mais avant cela, nous retrouverons l'invité de la dispute, le musicien et compositeur Machar Bar-Khalife. Mais pour l'instant, c'est la douce musique d'Émilie Chaudet pour la revue de presse culturelle quotidienne de la musique. De la dispute. Bonsoir, chère Émilie.
Bonsoir, Arnaud. Bonsoir, Anna. Bonsoir, Philippe. Et bonsoir à tous. Il faut que le public soit plus diversifié. C'est une phrase qui pourrait figurer en bonne place, voire en exergue d'une histoire sociale du théâtre. Là, il s'agit d'un vœu de Stéphane Braunschweig, rapporté dans Le Monde de ce week-end. Le directeur du théâtre de l'Odéon, qui en a présenté la saison 2017 vendredi dernier, a donc annoncé en ce sens la vente à moitié prix de 7000 places à partir du mois de janvier prochain. 5 pièces de théâtre sont concernées, pour lesquelles 2 avant-premières seront prévues avec des places allant de 7 à 20 euros. Stéphane Braunschweig justifie cette décision dans les pages du Monde, interview signée Brigitte Salino. La logique, dit-il, de la politique de l'augmentation tarifaire demandée par la Cour des comptes va à l'encontre de la mission de service public. Il faut que l'Odéon Théâtre de l'Europe soit plus ouvert, plus accessible, qu'on y voit des spectacles et qu'on y débatte de ce qui nous concerne tous. Ce sont là les derniers mots de l'interviewé, des mots aux airs de déjà entendu, très proche, au mot près d'ailleurs, de ceux de Luc Bondy, son prédécesseur décédé il y a bientôt 6 mois. Des mots enfin qui reflètent un échec répété, une recherche permanente pour ancrer le théâtre dans le quotidien du public. Et quand le directeur du théâtre de l'Odéon parle de diversité et d'ouverture, il parle aussi de celle du plateau. Je ne suis pas favorable aux quotas, mais le théâtre de l'Europe doit donner l'élan. Une réflexion que mène sur le terrain le collectif Décolonisons les Arts. La journaliste Anaïs Éluin trace les contours de ce collectif dans le magazine Politis, un collectif créé en mars 2015 et qui a fait parler de lui il y a un mois en se rassemblant dans le hall du théâtre de Chaillot à Paris pour, je cite l'article, revendiquer une meilleure représentation des populations non blanches dans le secteur culturel français. Dans ce collectif, on retrouve entre autres la poétesse guadeloupéenne Gertie Dambouri, le directeur du CDN de Haute-Normandie David Bobet ou la metteuse en scène Eva Doumbia. Et avant cette action à Chaillot, théâtre que la journaliste désigne comme, je cite, emblématique de la situation dénoncée par le collectif, Décolonisons les Arts s'est fait connaître en février dernier par la rédaction d'une charte adressée à plus de 300 directeurs de lieux culturels et de festivals en France. Charte visible sur la page Facebook du collectif et dans laquelle on peut par exemple lire « Vous savez mieux que personne la triste corrélation entre les origines de ceux qui sont sur les plateaux et de ceux que l'on espère dans les salles. Où sont les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les Latins ? Les Français des cultures minorées dans les théâtres de France, dans la culture de France. » Quoi qu'il en soit, la poétesse Gertie Dambouri note que les revendications du collectif ont été mieux reçues par le ministère de la Culture, c'était fin avril, que par la profession qui reste, selon ses mots, très conservatrice. Ce qui est sûr, c'est que la mise en place d'un label diversité est encore loin. Là aussi, c'est un souhait du collectif. Une sorte de bon point qui récompenserait dans les lieux culturels de leurs bonnes pratiques en la matière. Mais dans le champ de la diversité, il y a une voix que l'on entend souvent, c'est celle du comédien et metteur en scène Stanislas Nordet, dont on peut lire l'entretien mené par Marie-Josée Sirage dans l'Humanité, le directeur du Théâtre National de Strasbourg, qui explique « Nous sommes partis du diagnostic suivant. Pour qu'une institution ne sclérose pas, il faut qu'elle soit envahie par les artistes. Le ministère ne nous a pas entendus. Quand je suis arrivée au TNS, le décompte a été vite fait. 98 salariés, techniciens et administratifs. » Et un seul artiste, moi. Stanislas Nordet qui se prononce donc pour une direction tournante et collective. J'ai fait comme la jolie autostoppeuse, dit-il, dont les copains sont cachés dans les fourrés. Comme je ne pouvais pas partager collectivement la direction, je l'ai fait artistiquement. Résultat exposé dans l'article de l'Humanité, une vingtaine d'artistes associés et un public au rendez-vous, si l'on en croit l'auteur et metteur en scène plutôt de Je suis Fassbinder, qui se joue en ce moment au Théâtre de la Colline à Paris et dont vous avez parlé ici même la semaine dernière, Arnaud et Philippe, avec Marie-Josée Sirage de l'Humanité, qui écrit à ce titre que cette pièce est un théâtre qui parle d'aujourd'hui en temps réel. Un théâtre, selon cette fois les mots de Stanislas Nordet, qui permet aux spectateurs de rester éveillés. C'est peut-être là aussi, outre le facteur financier, l'une des clés d'une possible diversification du public. Un théâtre qui parle du je et du nous, comme la pièce Wout, de la dramaturge autrichienne Elfriede Jelinek à Munich, pièce qui évoque, comme nous l'apprend le monde, l'attaque terroriste dans les locaux de Charlie Hebdo et dans le magasin Hypercacher à Paris, ou comme le succès du moment au festival belge Kunsten Festival des Arts à Bruxelles. Il s'agit de la dernière création du metteur en scène Milo Rao autour de l'affaire Marc Dutroux. Guy Duplat du journal La Libre Belgique y pousse un soupir de soulagement. Il régnait beaucoup de fantasmes et de craintes sur ce que pourrait être un spectacle joué par des enfants sur l'affaire Dutroux. Mais voilà, le critique belge rejoint la position du metteur en scène suisse qui expliquait, je cite l'article, avoir choisi ce sujet car l'horreur de l'affaire et le sursaut de la marche blanche représentaient à la fois le trou noir d'une nation et son affirmation. Un conte du nous qui séduit le public avec des histoires aux cicatrices multiples et collectives et qui suscite un tout autre débat que celui purement artistique. Le débat et la discussion autour de l'œuvre qui fleurissent peu à peu dans diverses scènes européennes pour créer un autre lien avec le public, comme le souligne un article du journal El País. Le théâtre madrilène de la Abadia vient de mettre en place une rencontre mensuelle entre les spectateurs et les comédiens de la pièce du moment pour une discussion informelle autour du rôle que doit jouer le théâtre. Un rendez-vous, selon les mots de la journaliste Aurora Inchausti, au cours duquel le public deviendrait le protagoniste actif. Même si le facteur financier reste donc éminemment important pour atteindre un autre public, toutes ces voix artistiques et militantes nous montrent qu'il ne faut pas abandonner, si l'on reprend une dernière fois les mots de Stanislas Nordet, l'espace de la parole que demeure le théâtre.
Merci Émilie Chaudet. Alors c'est un enchaînement tout trouvé, hein, ces rencontres spectateurs publics, parce qu'on pourrait commenter la revue de presse, on le fait sur ces thématiques régulièrement, mais là, rencontre en Espagne, mais rencontre aussi rue de la Roquette, à Paris, au Théâtre de la Bastille. Notre envoyé spécial, Anna Segalevitch, est allée prendre des nouvelles de l'occupation Bastille par Thiago Rodriguez.
Qu'avez-vous
vu?
Mais en fait, je suis allée à la répétition qui avait lieu samedi au Théâtre de la Bastille pour Ce soir ne se répétera jamais. Donc, pour expliquer un peu aux auditeurs. Donc, en début de saison, il y a eu By Heart, qui était... Le principe était de faire venir des spectateurs sur scène pour leur apprendre, à chacun d'eux, ils étaient, je crois, une petite dizaine, quelques passages d'un sonnet de Shakespeare. Et après ça, se tricoter une histoire... autre, alors je ne vais pas trop raconter parce que je pense que ce sera repris et ça vaut vraiment le coup de le découvrir, de Thiago Rodriguez et de sa grand-mère. Donc là, il était en scène et il faisait monter des spectateurs sur scène. Ensuite, nous avons vu Bovary, là avec une équipe d'acteurs, on en a parlé il y a 15 jours ici, spectacle que, voilà, on l'a dit, hein, que j'avais trouvé très intéressant, avec une bande d'acteurs assez remarquable, où le public est aussi considéré. Enfin, en tout cas, il y a une façon de jouer entre les spectateurs, le metteur en scène et la salle qui est particulière. Et là, donc, maintenant, suit Ce soir ne se répétera jamais, qui va se jouer 3 fois au Théâtre de la Bastille. Ça a eu lieu déjà le mardi 10 mai, ce sera demain soir et ce sera également le 24 mai. Et après, ce soir ne se répétera jamais. Donc, ce soir ne se répétera jamais. C'est avec les acteurs de Bovary, les mêmes acteurs, plus une 50aine de personnes. Donc, En fait, en début de saison, il y a eu un appel à candidature où le Théâtre de la Bastille a proposé essentiellement à ses spectateurs, parce qu'ils voulaient que ce soit un public de spectateurs de théâtre, d'écrire une lettre de motivation pour participer au projet. Et donc, ils ont sélectionné une cinquantaine de personnes. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que moi, j'ai vu donc samedi des spectateurs que j'avais vus sur scène pour By Heart. Enfin, c'est-à-dire ça crée comme cette sorte de résonance qui est assez, je trouve, amusante. Et après, ce soir ne se répétera jamais, il va y avoir un dernier spectacle qui s'appelle Je vous ai vu pour la première fois au Théâtre de la Bastille. Ça, ce sera début juin, où les acteurs de Bovary plus de comédiens portugais vont créer un spectacle pendant une semaine après sur ce qui s'est passé en fait au Théâtre de la Bastille tout au long de cette saison. Et donc là, ils auront une semaine pour créer le spectacle. Donc en fait, ils vont se servir à ce moment-là se servir de la matière de création pour créer autre chose. Voilà. Donc vous voyez, c'est une sorte de coup de billard comme ça à quatre bandes qui est assez déroutant, mais que je trouve franchement intéressante. Donc la première fois, ils ont occupé le théâtre pas mal. Donc le 10 mai, ils étaient partout sur scène, dans la salle, dehors, au bar, etc. Et ils ont, après trois semaines de répétition, réussi à créer vraiment une forme de collectif. Voilà, ça c'était le 10 mai. Et la prochaine, donc ce sera le 17. Donc l'idée, c'est que ce soir ne se répétera jamais. Donc on fait pas la même chose. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là, ils se retrouvaient samedi, etc. Et alors c'était très intéressant parce que les acteurs, en fait, ont commencé à vouloir construire quelque chose autour de l'être. Donc il y a Carl Valentin, Annie Ernaux, Anna Alprime qui ont été évoqués, etc. Puis à un moment donné, il y a eu des protestations qui ont commencé à avoir lieu de la part des spectateurs. Et il y a eu une crise qui a eu lieu. Et bon, je vais pas tout vous raconter parce que il faut aller voir ce qui va se passer mardi.
Demain.
Et d'ailleurs, personne ne sait. Enfin, je pense que eux ne savent pas et que nous on ne sait pas. Enfin, moi je ne sais pas non plus ce qui va se passer mardi. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est comment Thiago Rodriguez a géré cette crise. C'est-à-dire qu'il n'a aucune complaisance, aucune démagogie. C'est-à-dire qu'en gros, mais en même temps, il élude pas le problème et il cherche pas à construire au résultat. C'est-à-dire que c'est vraiment, on se sert de ce qui se passe, de l'humain, du vivant, pour créer quelque chose artistiquement. Voilà. C'est-à-dire qu'on part dans, oui, c'est le portrait d'un processus, mais c'est sa traduction artistique qui compte. Et je trouve que c'est une façon de faire du théâtre qui est très intelligente. Enfin, Thiago Rodriguez est d'une intelligence redoutable.
Il est passionnant,
mais il est
surintelligent.
Il a un coup d'avance tout le temps et en même
temps sympathique.
Et il assume aussi de reprendre l'autorité. Il n'est pas démago, c'est ça qui est très très beau. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup
d'admiration.
C'est gratuit. Enfin, ça vaut le coup d'essayer d'aller voir demain ou la semaine d'après et ensuite de voir ce qui va résulter de tout ça début juin.
Belle aventure que cette occupation Bastille par Thiago Rodriguez. Donc prochain rendez-vous demain soir. Et on ne sait pas ce qui se passera demain soir, ni le mardi suivant. Voilà pour ce point de notre envoyé spécial. Dans quelques minutes, on parlera de Verso Medea, spectacle écrit, mis en scène par Emma Dante. Et c'est en ce moment à l'affiche des Bouffes du Nord. Avant cela, nous retrouvons l'invité de la dispute, le musicien et compositeur Machar Bar-Khalifé, dont vous pouvez retrouver toute l'actualité, très riche, sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Comment allez-vous? Très bien, merci.
Bachar Mar-Khalifé, je suis très heureux de passer cette semaine en votre compagnie parce qu'il y a beaucoup d'ailleurs de domaines dans lesquels vous êtes inséré, frotté, épanoui. Le spectacle, c'est sûr, quand on est comme vous, musicien, c'est aussi une forme d'expression. La scène, pour vous, là je commence par vous avant que vous nous parliez des autres, c'est un moment comment d'être sur scène?
C'est jamais le même moment, c'est toujours un moment en tout cas unique et éphémère. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté de ce métier, qui est le métier de scène finalement, c'est que c'est un risque à chaque fois extrême. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement toujours. Et ce risque-là sublime en fait, je crois, le moment... la musique, les mots qu'on va prononcer, etc. J'ai une relation qui est très changeante aussi avec la scène, c'est-à-dire que il y a des fois où je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je fais là, j'y vais un peu à reculons. Et il y a des moments où j'ai du mal à attendre en loge et j'ai envie d'y aller, et de m'exprimer, de crier, de chanter, etc. Donc c'est très changeant et c'est quelque chose que je n'apprivoise pas je n'ai pas envie d'apprivoiser. Je pense que ce serait quelque chose qui serait lassant au final. Et pour l'instant, je découvre encore beaucoup de choses en montant sur scène.
Et vous découvrez d'autant plus que, alors, il y a une rencontre qui doit être celle du public avec celles et ceux qui sont sur scène, mais il y a aussi des rencontres sur scène, parce que on en reparlera certainement dans les autres soirs de cette semaine, mais vous êtes un homme de rencontres, vous aimez jouer, collaborer avec des gens d'horizons très différents.
J'ai collaboré beaucoup pendant une certaine période de ma vie, un peu avant en fait que je me lance dans ma carrière solo, avant que je me décide à composer, à enregistrer mes propres chansons, etc. J'ai fait beaucoup de concerts avec des projets très différents, du jazz à la musique du monde, à la musique classique, etc. Et ça m'a nourri forcément d'une manière très très forte. Et aujourd'hui, je dois avouer que je suis un peu moins ouvert à la collaboration, mais
concentré sur votre travail, c'est normal.
j'ai aujourd'hui deux musiciens avec moi sur scène qui m'accompagnent dans la tournée et qui partagent avec moi ce projet sans trop échanger par la parole. Finalement, j'accorde beaucoup d'importance aux choses de la vie qui ne nécessitent pas beaucoup d'explications, de textes, etc. Ce sont des choses beaucoup plus organiques et je suis très heureux aujourd'hui de partager la scène avec eux.
Et quand vous êtes vous, spectateur, Bachar Mahalifé, est-ce que, bon, il y a la musique, ça j'imagine que vous allez dans des concerts, mais est-ce que le théâtre, l'opéra, la danse, le cirque, voilà, ça fait partie de vos envies?
Alors des concerts, je n'y vais pas souvent. C'est quelque chose, déjà faute de temps, forcément. Peut-être aussi par un petit manque de curiosité de ma part et un certain mal-être à me retrouver dans le public. J'ai du mal à lâcher prise, en fait, en concert, me dire que je viens écouter un concert. Et... chose que je n'ai pas du tout, par exemple, quand je vais au cinéma ou au théâtre. Je suis extrêmement heureux et je ressens un bonheur extrême d'enfin lâcher prise et de n'avoir aucune pression et de me laisser porter par le spectacle ou le film que je vais voir. Mais pour les concerts, c'est une autre paire de manches. Ouais.
Plaisir, théâtre, est-ce qu'il y a des spectacles qui vous viennent en tête, qui ont été des spectacles qui vous ont nourri, ému, touché, fait réfléchir?
J'aimerais parler d'un ami qui m'est cher, qui s'appelle Sharif Gattas, qui est un jeune auteur franco-libanais, comme moi, que j'ai rencontré... grâce à une pièce qu'il avait écrite, il m'avait invité à voir sa pièce il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Bus Stop. Et j'étais très heureux de cette rencontre. Sa pièce m'a frappé par la musicalité de son écriture. Et j'ai appris qu'il allait cet été présenter à Avignon une de ses pièces qui s'appelle Les Bêtes, que je n'ai pas ni lu, alors que d'habitude je lis ses pièces, il me les envoie, qui a été mise en scène cette fois-ci par Alain Timard. Bien sûr qu'on partage beaucoup de choses, l'amitié, mais aussi on avait collaboré sur une pièce de théâtre. C'était un mélange de théâtre, de musique, qui s'appelait Le Paradis de Elki, où j'étais seul sur scène.
Un ambiance piano, c'était le festival.
Exactement, ouais. Ça a été présenté au Théâtre des Bouffes du Nord, où Sharif Gattas m'avait mis en scène. Et on avait collaboré aussi avec le collectif Scale pour la vidéo, pour la scénographie. Il y avait Julien Pessel. Et donc voilà, c'est un compagnon de route que j'aime suivre. J'ai été aussi invité très récemment à voir une pièce qui s'appelle Les Justes, qui a été mise en scène par une jeune metteuse en scène qui s'appelle Tatiana Spivakova, qui a revisité Les Justes dans une période très tourmentée. J'aime le théâtre sans trop de décors, sans trop d'artifices. J'aime le théâtre quand on ressent la fougue des acteurs, leur sueur, leur énergie. On est vraiment très proche. Il y a des très très beaux théâtres à Paris. Les plus petits, je crois, sont les plus beaux. J'étais bouleversé par cette pièce. Et donc, elle avait aussi utilisé une musique à moi pour la fin.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant avec Verso Medea, le spectacle d'Emma Dante, à l'affiche des Bouffes du Nord jusqu'au 28 mai. Musique et chant sont l'œuvre des frères Mancuso, surtout, il y a d'autres qui chantent, mais 6 comédiens d'abord sur le plateau, puis 2 autres pour revisiter le mythe de Médée, suite de meurtres et de fuites. Voyage sanglant à travers toute la Grèce antique.
Cosa c'è dentro la borsa?
Regali per nostro figlio.
Apritela!
Talè, che tessuti pregiati!
Tutto ricamato, talè!
Antico!
Roba in stock! Nella tasca laterale ci sono dei soldi.
Grazie.
Prego.
Io ti salvai, te lo ricordi? Quando fosti mandato a domare i tori che soffiavano fuoco e a seminare il campo della morte! E il serpente che sorvegliava il vello d'oro, fui io ad ucciderlo! Se lo ricorda secondo voi?
Sorricorda!
Per lui tradì mio padre, la mia famiglia, e con lui venni a Iolco seguendo il cuore più che la ragione.
Gaki!
Ero pazza di te! Ho ucciso Pelia nel modo più crudele. Per mano delle sue figlie ho distrutto la sua casa. E dopo tutto quello che ho fatto per lui, lui mi tradisce con una nuova donna.
Vergogna!
Se non ci fosse stato di mezzo questo figlio, forse avrei potuto perdonare. Ma adesso, come puoi pretenderlo? Non c'è più fede in te nei giuramenti. Forse per te Dio non esiste più. Tu mi hai giurato il falso, stringendomi la mano e aprendomi le cosce, mentre nutrivi le mie speranze infame.
Verso Medea, Emma Dante au Bouffe du Nord. Philippe Chevillier, pour commencer.
Alors Emma Dante, il y a toujours un petit phénomène autour d'elle. Je me souviens qu'à Avignon, en 2014, les gens faisaient la queue pour aller voir les Sorelle... Malacuzzo.
Ouais.
Excusez-moi, je me reprends avec mon italien. Et donc, moi, j'étais intrigué de voir ce spectacle qui, alors, elle a fait un premier Médée en 2003. Celui-là date de 2012, il a été recréé à Vicenza, avec la musique qui était déjà en 2003 des Fratelli Mancuso. J'ai été séduit par ce spectacle qui est une jolie transposition du mythe grec dans la Sicile populaire. C'est peut-être une version comme ça qu'on a plus solaire, on a l'impression que le soleil est très présent, qu'on a une ambiance de place de village, en même temps c'est un peu hors du temps. Il y a chez une Médée, c'est donc la femme du spectacle, puisque les autres femmes sont jouées par des hommes déguisés dans des scènes de comédie. C'est amusant comme elle arrive à intégrer cette comédie dans la tragédie, parce qu'il se passe des choses évidemment horribles dans cette pièce. Et du coup, il sort de cette pièce d'une heure, une Médée extrêmement sensuelle, libre, assez sauvage, assez violente, qui danse, chante sur les voix donc des frères qui ont composé la musique. Alors ils chantent pratiquement tout le temps, hein. c'est une cantate en fait, un genre de cantate sicilienne. Je trouve qu'il y a une grande simplicité dans la façon dont elle le fait, ça passe très bien. Et ce que j'aime bien chez elle, c'est cette faculté qu'elle a de créer des images avec pas grand chose. Alors, et c'est amusant que ça soit au théâtre des Bouffes du Nord que ça se passe, parce qu'on est un petit peu dans l'esprit de Brooke à ce niveau-là. Il suffit d'un sac avec des tissus, c'est l'extrait qu'on a entendu d'ailleurs, je crois, où elle sort des tissus du sac de toutes les couleurs et tout d'un coup ça fait une très belle image. L'accouchement de l'enfant de Médée qui est une espèce de pantomime comme ça, et on a l'évocation du drap presque par prestidigitation du bébé, qui est un patchwork qui va rappeler le petit ballon de football. Elle aime bien les ballons de football, un petit ballon qui reprend les motifs du patchwork. Il y a très peu de choses, une rangée de chaises, des lumières très simples, et au bout du compte, au bout d'une heure, moi je trouve qu'on a assisté à une version de Médée assez jolie, alors peut-être pas aussi âpre qu'elle devrait l'être, aussi tragique qu'elle devrait l'être, mais avec cette séduction qu'il y a, ce côté sicilien, italien que j'aime bien, cette élégance même dans le mélodrame, et moi j'ai passé un bon moment. Voilà.
Bon, Anna Sikelevitch.
Bon, ben moi moins. je partage avec vous effectivement cette... Oui, le côté on fait du théâtre avec pas grand chose, ça c'est très bien fait effectivement, ce tissu dont vous parliez qui évoque après le bébé et puis après qui se dissout, c'est beau. Moi j'ai aimé la musique, j'ai aimé le début du spectacle, vraiment. Avec ces deux frères qui entrent sur scène comme ça, très proches l'un de l'autre, qui se mettent au centre. L'un met la main sur l'épaule de l'autre. Et on dirait des siamois, en fait. On a l'impression que c'est vraiment une sorte de corps à deux têtes. Et cette musique qui vient de loin, ce chant, ces voix qui viennent de loin, qui sont assez métalliques, qui sont assez, qui sont profondes et qui, je trouve, remplissent le théâtre des Bouffes du Nord de façon assez belle. Puis ensuite, ils s'installent à court et ils ont différents instruments de musique plutôt traditionnels. Enfin, je ne sais pas comment les expliquer.
Traditionnel.
Voilà, traditionnel. Ouais, ouais. Voilà, traditionnel.
Assez étrange.
Assez étrange, oui, oui. Ouais. Et puis ensuite, il y a cette rangée de femmes jouées par des hommes qu'évoquait Philippe, qui est à peu près la même chose que dans Les Sorelle. Je ne sais pas si c'est Malacuzzo ou Macaluso, mais peu importe.
Malacuzzo, je crois.
Malacuzzo, disons.
En rangée, comme ça.
En rangée, qui bouge, première scène extrêmement vive, comme ça, assez chorégraphiée. Et puis, il y a le personnage de Médée qui arrive. Bon, moi, j'ai été très gênée, en fait, par le personnage de Médée. C'est pas l'actrice, du tout, que je remets en question, mais c'est le traitement du personnage. Parce que, pour moi, en fait, il n'y a pas de tragique dans ce spectacle. C'est-à-dire que Médée, c'est une tragédie. Et là, il y a une dévaluation du tragique au profit de son succès d'aîné, qui est l'hystérie. Et c'est ça que j'ai eu le sentiment de subir en fait pendant une heure, ce qui fait que le spectacle, en fait, je l'ai regardé, mais à aucun moment il ne m'a touchée, parce que je n'ai pas vu une femme prise dans la douleur d'un acte du tout. La folie m'a paru artificielle. En fait, j'ai eu le sentiment de voir un règlement de compte et un prétexte à traiter de la misogynie. Alors. Donc Médée s'agite beaucoup. Je trouve qu'on pense par moments aux femmes hystériques du professeur Charcot, quoi, carrément. Il y a ce côté-là. Le texte me paraît assez faible. Il y a OK, donc les mecs sont tous des pourris, donc les femmes se vengent, un peu cause à effet, ça me paraît un peu court quand même pour résumer le...
Oui, et puis d'une trivialité qui n'est pas toujours très nécessaire.
Oui, d'une trivialité qui n'est pas nécessaire. Et du coup, n'y croyant pas, en fait, ça m'a paru folklorisant, et j'ai regardé en appréciant certaines qualités, bien sûr, cette faculté à faire du théâtre et la musique que j'ai aimée, moi, la musique de ses frères Moncuso.
Ouais.
Mais théâtralement, je suis restée assez loin de tout ce qui se passait.
Alors, assez loin aussi, pour moi, des premiers spectacles d'Emma Dante qu'on a pu voir en France, Vita Mia ou M. Palermo, qui avait été donné au Théâtre du Rond-Point, notamment, et qui était vraiment, à cette époque-là...
Il y avait une authenticité qui se dégageait.
Il y avait une intensité. Une vérité, enfin, on avait vraiment l'impression de quelqu'un qui faisait des spectacles absolument vitaux, essentiels, qui arrivait vraiment à transmettre cela. Après, Emma Dante tant mieux pour elle, a eu un certain succès, a pu faire des productions plus importantes et plus riches aussi sur le plateau, et qui, à mon avis, n'était pas du tout pour elle, et ça donnait des spectacles plutôt embarrassants, presque. Moi, Les Sorelle et Malacuzzo, qui revenaient effectivement, apparemment à l'ancienne forme, m'avait exaspéré d'un bout à l'autre. Je n'avais pas du tout adhéré à ce spectacle.
Moi, j'avais aimé.
Et je me souviens. On en avait parlé dans cette émission. Et donc, c'est vrai que là, j'étais plutôt curieux parce que j'ai entendu plutôt des bonnes choses sur ce spectacle. Mais malgré tout, moi, je retrouve un peu ce que vous dites, Anna Segalevitch. C'est-à-dire, je serais quand même très curieux, parce qu'avec le jeu des femmes en hommes, etc. Et puis cette vision de Médée, je serais curieux de savoir ce qu'on aurait dit si un homme auteur et metteur en scène avait proposé cette version de Médée. Donc je pense qu'il peut y avoir des femmes misogynes et qu'en l'occurrence, moi, ça m'a vraiment tout à fait pas scandalisé, mais enfin, ça m'a beaucoup gêné, en tout cas, dans la vision que propose Emma Dante des femmes. Alors, il y a Jason qui est un Jason sans grand intérêt, qui existe à peine, bon, on ne sait pas très bien, bon, qui doit subir l'hystérie, donc qui réagit en fonction, mais sans vraie nécessité. Moi, j'avoue que je suis passé tout à fait à côté de ce spectacle, ce qui est fort possible aussi, Philippe Chevillier.
Jason, il est veule, enfin, quand on voit quand on pense à l'histoire, ils sont vraiment atroces, les hommes dans l'histoire, que ce soit Croyon, tous les hommes sont atroces quand on reprend le mythe de Médée. Donc, au bout du compte, je pense qu'elle a voulu ramener, moi, le mythe vers quelque chose de plus terrien, la terre de Sicile, justement, dont je parlais, et de côté, on est loin des dieux et on a une femme qui veut, qui dans la violence, dans la sauvagerie, justement, se libère des hommes, se libère de. Donc, on peut voir une version féministe si on veut. Moi, je l'ai vu plutôt.
Ah non, moi, j'ai vu une version misogyne, moi, mais.
Ben voilà, mais on peut.
Vous féministe alors.
Peut-être que je suis pas féministe en trouvant que c'est féministe, mais mais j'ai trouvé ça plutôt féministe. Moi, j'ai plutôt trouvé. Alors, je reconnais moi qu'il y a d'abord un peu trop de danse. Qu'il y a aussi, dans le côté un peu, je comprends ce que dit Anna avec le côté un peu hystérie et tout ça, mais cette forme de sauvagerie qui, avec la musique et tout ça, moi je trouve que ça se dissout dedans et que ça fait un beau spectacle.
Dernier mot, Anna.
Mais moi, je trouve que ça réduit le personnage, justement. C'est ça. C'est-à-dire que, oui, je comprends que vous disiez c'est féministe, parce que, effectivement, les types sont pas mieux que les femmes. Mais de réduire m'aider à une sorte de pure vengeance binaire, basique, etc. Enfin, c'est quand même pas ça. M'aider, c'est quand même une femme absolument tragique, prise dans la douleur d'un acte. C'est un personnage beaucoup plus dense et haut que ça. Là, c'est terrien, c'est concret, c'est trivial, et du coup, ça manque à mon sens, de complexité.
Allez voir par vous-même, si vous le pouvez. Verso Medea et Madante, c'est au Bouffe du Nord, à Paris, jusqu'au 28 mai.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et avant de conclure cette émission par un coup de fil, passer à Lise Abance Mouronen, le jeu de la dispute, et elle va se faire une joie de le faire avec moi ce soir. Anna Segalevich, et d'abord vous nous rappelez ce qu'on gagnait vendredi soir.
Je vous rappelle la question de vendredi soir.
Oui.
Pour quels animaux Gérard Pétrus Fieré s'est-il pris de passion?
Et la réponse était?
Les pigeons.
Des pigeons, mais écoutez, chacun son truc. Ce soir, on fait gagner des DVD du documentaire Après Hitler d'Olivier Vivorca et David Korn-Broza, distribué par Z. Quelle est la question, Anna?
Quel acteur français prête sa voix pour commenter le film?
Vous ne donnez pas la réponse. La réponse, c'est nos auditeurs qui nous la donnent. Ils nous l'envoient avec leurs coordonnées postales. N'oubliez pas, ce serait dommage. Tout cela envoyé par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute.
Hello.
Et ce soir, j'appelle la trapéziste et fondatrice de la compagnie de cirque Galapia, Elise Abance Mouronen, qui joue dans une création tout droit sortie des forêts boréales, Mad in Finland. Ce sont 7 femmes, toutes circassiennes, toutes finlandaises, qui présentent ce spectacle que l'on pourra voir du 15 au 18 mai à la scène nationale de Châteauroux. Elise Abance Mouronen, est-ce qu'on se sent davantage finlandaise lorsqu'on se trouve loin de son pays?
Bien sûr, j'ai l'impression que quand on est loin de son pays, bizarrement, on s'approche plus.
À l'origine de ce spectacle, qui existe depuis quelques années, on en parlera, il y a un roman qui s'appelle Les 7 frères. Alors, je ne vous cache pas qu'il est assez peu connu en France, mais par contre, en Finlande, c'est un roman important. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Cet roman, il est le premier roman écrit en finnois. Et en plus, ça raconte une histoire des 7 frères orphelins qui sont dans la forêt de Finlande. Et il y a beaucoup aussi des clichés des Finlandais. Donc, on s'est inspiré un petit peu de ce livre pour faire le spectacle, entre autres. Voilà, c'est quelque chose d'important dans notre culture aussi, la forêt, le notion d'être frère et sœur, et puis aussi le sauna de tout ce qui est dans le livre.
Mais ce livre-là, et le fait évidemment que vous soyez 7 femmes finlandaises, comme 7 sœurs, donc ici plutôt que ces 7 frères, qu'est-ce que vous avez trouvé en commun, ou qu'est-ce que vous avez pu ressentir en commun du fait de l'éloignement de votre pays? Est-ce que c'est une forme de nostalgie qui est aussi à l'origine de ce spectacle, ou c'est une façon aussi de mieux faire connaître la Finlande?
En fait, on s'est rendu compte que être loin de son pays, ça nous a approché, nous, de Finlandaise à port, et aussi souvent on représente notre pays. Quand on parle, les gens entendent l'accent, ils demandent où vous venez, et après souvent on finit par expliquer un peu la culture de où on vient. C'est pas un pays si connu que ça. On s'est trouvé à parler de beaucoup de ça, aussi à se trouver entre nous en France ou ailleurs, et un peu rigoler à notre propre culture, et aussi, aussi avoir la nostalgie de tout ça. On a créé le spectacle un peu comme pour partager plus sur scène aussi nos souvenirs et nos nostalgies.
Elisa Bonsé-Mohonen, ce spectacle est donc réalisé par 7 interprètes qui viennent de Finlande, mais qui ont quitté ce pays pour vivre leur passion, le cirque. Est-ce que le cirque n'a pas la place que vous aimeriez qu'il ait en Finlande? Est-ce qu'il n'est pas reconnu, le cirque tel que vous le pratiquez?
Il y a une forte culture de cirque, surtout de loisirs en Finlande. Mmh. Maintenant, il commence à avoir aussi plus ou moins beaucoup de compagnies finlandaises qui existent, mais après, souvent, la plupart du temps, il doit quand même y aller travailler à l'étranger, parce qu'il n'y a pas autant des festivals ou des théâtres qui programment. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de pratiquer vraiment du cirque comme métier en Finlande. Mais ça avance, et plus en plus, il y a des festivals et des théâtres qui programment aussi.
Mais est-ce que vous avez joué Made in Finland en Finlande?
Et oui, on l'a joué l'année dernière, la première fois.
Comment ça a été reçu?
Et nous, on avait très peur parce qu'on s'était dit, est-ce qu'ils vont dire qu'on fout de la gueule de Finlande et tout ça? Et en fait, finalement, c'était très bien reçu. Et puis, on va retourner l'année prochaine.
Et puis, dans votre pratique, ici à Bonsé-Mohonen et avec la compagnie aussi, il y a ce spectacle, bien sûr, mais il y a d'autres spectacles qui sont nés. Et puis, il y a peut-être aussi une façon de parler du monde dans lequel on vit. Alors, un monde qui donne pas très envie de sourire. En Finlande, le parti d'extrême droite des vrais Finlandais est devenu la troisième force politique du pays l'année dernière. En Hongrie, en Autriche, en France, c'est pas beaucoup mieux. Est-ce que, en tant qu'artiste, vous avez envie que la politique ou le politique soit présent d'une façon ou d'une autre dans vos créations?
Bien sûr. On essaye de parler de notre façon de voir le monde et aussi de vivre dans ce monde. Pour nous, on parle de l'art et de nous, de spectacles et tout ça. Après, forcément, vu qu'on a nos opinions, ça se voit et ça se sent et c'est notre place est là. Après, c'est pas, comme je viens de dire, c'est pas un choix très fort de dire on fait un spectacle politique, on fait un spectacle pour l'art et la nécessité de faire du spectacle.
C'est en soi déjà politique que de dire que l'art est essentiel et parce qu'il importe de voyager, y compris d'un pays à un autre, à l'heure où la question des migrants est si importante, des gens déplacés, des réfugiés, des exilés. Vous-même, vous faites partie d'une communauté qui est celle du monde aussi en voyageant comme
tout
cela.
Parfait.
On sera heureux en tout cas de découvrir à nouveau, parce que peut-être que beaucoup de nos auditrices et auditeurs ont déjà vu Made in Finland, puisqu'il a été créé en 2012. Les prochaines dates, 15 au 18 mai, c'est à la scène nationale de Châteauroux. Et puis, suivre aussi, bien sûr, les autres spectacles de la compagnie Galapia. Merci beaucoup, Elise Amonsé-Mohonen, pour ces quelques mots sur Made in Finland. Bonsoir. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Anna Sigalevitch, Philippe Chevillier et Émilie Chaudet, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Un site sur lequel vous pouvez également vous abonner au podcast de cette émission, un site sur lequel vous pouvez nous écrire. Dispute possible grâce à Hugo Boursier, Émilie Chaudet, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Leduo. Prise de son ce soir, Pierrick Monsigny, réalisation Daniel Finot. Demain, la dispute sera présentée depuis Cannes par Antoine Guillot en compagnie de Fabio Ferzetti et Jason Solomons. J'y interviendrai brièvement. À l'affiche, Malout de Bruno Dumont, Julieta de Pedro Almodovar, Tony Erdmann de Maren Ader et Neruda de Pablo Larraín. Nous retrouverons bien sûr Émilie Chaudet pour la revue de presse culturelle de la dispute, les choix du musicien et compositeur Bachar Mar-Khalifé, invité de la dispute cette semaine. Il y aura un nouveau cadeau à gagner grâce au jeu de la dispute. Tout cela, c'est pour demain.